Nous sommes peu nombreux ce matin, c'est vrai, mais le Seigneur est avec nous et nous avons sa parole et c'est notre privilège de l'ouvrir ensemble. Et je vais vous proposer donc une lecture ce matin dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. En fait, c'est la conclusion de cette lettre que nous allons regarder ensemble. Juste quelques versets, donc à partir du verset 16, aux Thessaloniciens 5. Verset 16. Et voici donc cette parole de Dieu pour nous ce matin. Ça commence par « Soyez toujours dans la joie ». Parfois plus facile à dire qu'à faire, mais c'est aussi ce que le Seigneur désire pour nous. Donc « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances ». Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Parfois, on cherche à connaître la volonté de Dieu. Eh bien, ici, on a un petit résumé de ce que Dieu veut pour nous dans ces trois exhortations. Et puis, ça poursuit. N'éteignez pas l'action de l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Ça, on le met entre parenthèses en attendant la fin de la crise sanitaire. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La conclusion donc de cette lettre de Paul nous livre d'abord une petite collection de consignes, ces trois recommandations qui nous sont faites, des choses qui seraient d'ailleurs faciles à apprendre par cœur, pour que chaque jour on puisse y penser. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. C'est ça que Paul nous dit est la volonté de Dieu, que Dieu avait exprimée pour nous en Jésus-Christ. Paul a déjà exprimé un peu avant dans cette lettre une autre façon de voir la volonté de Dieu. Il a écrit « La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, votre consécration. » Une autre traduction dit « La volonté de Dieu, c'est que vous deveniez de plus en plus saints. » Donc il y a une grande marge de progression devant nous. La volonté de Dieu est que vous deveniez de plus en plus saints. Et les derniers versets donc de cette lettre, ce que je viens de vous lire, esquissent un peu le portrait de cette vie, ce que pourrait être cette vie consacrée, cette vie sanctifiée. Ou pour le dire autrement, on a ici de quoi nourrir notre réflexion au sujet de la différence que le Seigneur veut faire dans notre vie. C'est ce qui nous donne un témoignage d'ailleurs, la différence que le Seigneur fait dans notre vie. Et puis, dans le contexte de cette lettre, il y a aussi la pensée de « Voici comment Dieu veut que nous vivions en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais donc, on pourrait dire « Joie, prière et reconnaissance, la volonté de Dieu pour nous en trois mots. » C'est pas difficile à retenir. Joie, prière, reconnaissance. Des mots qui esquissent donc les contours de cette vie que Dieu veut pour nous. Une vie qui n'est pas statique. C'est une vie qui progresse, une vie qui nous mène plus loin dans notre connaissance de Dieu. Alors, on pourrait reformuler par des propos négatifs, si vous voulez, en disant « la vie sanctifiée n'est pas triste ». N'est pas intermittente, n'est pas ingrate. Et ça peut nous aider à rappeler ce que Dieu veut pour nous. Et puis vient ensuite, donc je vous fais un peu le programme avant de rentrer dans les détails, vient ensuite un rappel important. Paul nous rappelle ici que la sanctification ne se fera pas sans l'Église, sans le ministère prophétique de la prédication qui s'exerce dans la communauté locale. C'est la vérité qui nous sanctifie. C'est la vérité qui nous change. Cette vérité qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est aussi pour ça que depuis le début du culte, Pascal nous a incité à ouvrir cette parole jour après jour parce que c'est ça qui permettra à Dieu de travailler sur nous, de travailler en nous. C'est la parole de Dieu annoncée et appliquée qui nous enseigne le bien et qui nous permet aussi de reconnaître le mal, quels que soient ses déguisements. Et toutes ces exhortations, parce que ça commence déjà à faire un certain nombre d'exhortations ici, toutes ces exhortations sont à comprendre à la lumière de la prière qui les accompagne. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même, ou que le Dieu de la paix vous rende lui-même entièrement saint. Et ça nous rappelle une grande vérité, qui est que la sanctification est l'œuvre du Seigneur. D'abord, c'est pas quelque chose que je peux produire, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu produit à travers moi et en moi. Mais cette œuvre du Seigneur ne progresse que dans la mesure où ma relation avec lui est entretenue, s'approfondit, et aussi dans la mesure où mon écoute de sa parole s'affine et que je laisse faire la parole et l'esprit. Voilà, c'est l'appel de Dieu pour nous ce matin. Laissons faire la parole et l'esprit dans notre vie. Donc je reprends au début du premier point, la vie sanctifiée n'est pas triste. Soyez toujours dans la joie. Alors, si vous êtes comme moi, vous pouvez dire c'est pas toujours le cas. Il y a des choses qui nous gâchent notre joie dans la vie, souvent. Et on se laisse peut-être trop facilement détourner de cette joie que le Seigneur veut pour nous. Mais réjouissez-vous toujours. J'aimerais citer, je vais l'afficher, donc un verset qu'on trouve dans le premier chapitre de cette lettre, où Paul a déjà écrit, donc aux Thessaloniciens, ces chrétiens qu'il connaissait, « Quant à vous, vous avez suivi notre exemple, celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus à votre tour des modèles, des modèles pour les autres chrétiens. Je cite ce verset parce que c'est important de comprendre que la joie que Paul nous recommande n'est pas déconnectée de la vie réelle. Ces chrétiens connaissaient des épreuves nombreuses, mais en même temps la joie. Donc cette joie que Dieu veut nous donner n'est pas déconnecté de la réalité, c'est pas une espèce de zénitude qui fait qu'on n'est pas touché par quoi que ce soit qui nous arrive. On est forcément appelé à passer par des choses difficiles, mais la joie que Dieu veut pour nous, c'est une joie non pas qui nie les difficultés, mais qui refuse de se laisser éteindre par les circonstances contraires. C'est là que nous avons à apprendre justement à puiser cette joie en Dieu dans les moments où il y a des choses qui essayent de nous voler notre joie. C'est donc une qualité, cette joie, plus qu'un sentiment. C'est un fruit de l'esprit. Donc les fruits de l'esprit sont les caractéristiques que Dieu veut développer en nous. Il ne s'agit pas d'une joie qu'il faut fabriquer. Il faut être joyeux. Il faut que je sois joyeux. C'est écrit dans la Bible qu'il faut être joyeux. Non, on ne peut pas fabriquer la joie. C'est pas possible. Mais on peut recevoir. On peut accueillir la joie que Dieu veut nous donner. Et qui dépasse les choses difficiles. Qui nous aide à les dépasser aussi. Donc il s'agit d'une joie à accueillir. Alors, certains d'entre vous, vous dites peut-être, on trouve ailleurs dans les épîtres de Paul, cette exhortation à la joie. Effectivement, avec d'ailleurs quelques précisions, on trouve « Réjouissez-vous dans le Seigneur » et on trouve aussi « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et ce « dans le Seigneur », c'est important, parce qu'effectivement, il n'y a pas toujours, dans les circonstances de la vie, beaucoup de choses pour nous réjouir. Il y a des jours difficiles. Mais dans le Seigneur, il y a toujours de quoi nous réjouir, à cause de ce qu'il est et ce qu'il veut être pour nous. Donc la joie de l'Esprit-Saint, c'est une joie à puiser en Dieu et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, ça veut dire que cloué au lit par un lumbago, je peux encore me réjouir. Alors je ne vais pas me réjouir d'avoir une douleur qui m'empêche de bouger. Mais je peux encore me réjouir parce que le Seigneur ne m'aime pas moins dans mon état de faiblesse, d'inutilité, que quand je suis en pleine forme. L'amour du Seigneur pour moi ne varie pas. Et donc même dans la maladie, même dans la douleur, je peux me réjouir de cet amour du Seigneur pour moi. Ou alors, je pourrais trouver d'autres exemples, on pourrait dire, contrarié dans tes projets professionnels, ça arrive aussi dans une vie, tu peux te réjouir quand même de savoir que ton destin ne sera pas décidé par les lois aveugles du marché du travail, mais par ce Père aimant qui tient ta vie dans sa main. Et cette vision-là des choses, nous permet la joie, malgré parfois des épreuves difficiles. Réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur, là on trouve des raisons de nous réjouir. Donc cette joie, pardon, fait partie de ce que Paul appelle la volonté que Dieu a exprimée pour nous en Jésus-Christ. Et son esprit reste actif dans notre vie pour nous rappeler toutes les grâces, toutes les satisfactions que nous avons en Christ et qu'aucune détresse ne peut nous enlever. Je citerai encore ce verset connu, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans cette lettre aux Thessaloniciens, Paul a mentionné déjà plusieurs sources de joie pour le chrétien. Je vous donne un échantillon, on ne va pas refaire tout le tour de toute la lettre. Mais il y avait d'abord, il avait souligné dans le début de cette lettre, la joie d'avoir accueilli un jour la parole de l'Évangile. Alors pour certains d'entre nous, peut-être que ça remonte, on pourrait dire, ben oui, c'est loin. Il y a peut-être plusieurs décennies que vous avez accueilli la parole du Seigneur, la parole de l'Évangile qui a changé votre vie. Mais il ne faut pas être oublieux. Et il ne faut jamais oublier ce qu'on était avant d'avoir accueilli cette parole qui est parole de vie. Donc la joie d'avoir accueilli la parole de l'Évangile, que Paul aussi décline par cette expression de la joie de nous être tournés vers le Dieu vivant et vrai. Avant de connaître le Seigneur, il y avait tellement de choses sans valeur qui remplissaient nos cœurs, qui occupaient nos pensées. Et en lui, nous avons trouvé le vrai centre dont nous avions besoin. Nous nous sommes tournés vers le Dieu vivant et vrai, dit-il, en nous détournant de tous les maîtres qui nous imposaient leur joug, nous sommes entrés dans la liberté en Christ. Et puis, une joie que Paul a mentionnée aussi dans cette lettre, et c'est une joie qu'on oublie trop souvent, il me semble. Il parle de la joie de discerner l'œuvre de Dieu dans la vie des autres, dans la vie de ses frères et sœurs en Christ. Est-ce que nous savons nous réjouir de voir les autres membres de notre église locale progresser, grandir dans la foi, s'engager, servir. C'est une joie, c'est une source de joie que le Seigneur veut nous donner. Parfois, nous sommes peut-être un petit peu trop centrés sur nous-mêmes pour voir ce que Dieu fait chez les autres. Mais nous y sommes invités hein, dans cette épître, et je pense que c'est quelque chose à mettre quelque part dans un coin de notre esprit pour y réfléchir, pour méditer là-dessus. La joie de voir les enfants de Dieu tenir ferme déjà et progresser, c'est encore mieux. Et puis il y a cette joie aussi d'attendre le retour de celui qui un jour viendra nous chercher pour que nous soyons pour toujours avec lui. Donc Paul nous dit, la vie sanctifiée n'est pas triste. Alors, s'il y a des jours où notre joie est en baisse, ça devrait peut-être nous faire réfléchir. Quand ma joie est en baisse, n'est-ce pas peut-être le signe que ma consécration faiblit, que la pensée du monde reprend une emprise sur mon cœur, et que finalement cette pensée du monde arrive à me voler ma joie, la joie que Dieu veut me donner. Je pense qu'un manque de joie devrait être un avertisseur, hein, un clignotant rouge hein, qui s'allume pour nous dire, mais attention, hein, ne te laisse pas reprendre par toutes les futilités qui autrefois t'imposaient leur joug. La vie sanctifiée n'est pas triste. Et puis, la vie sanctifiée n'est pas intermittente. Ou peut-être, si on veut être réaliste, on va dire, n'est pas censée être intermittente. Parce que j'avoue que c'est aussi un combat, hein, un combat pour chacun de nous sans doute, et un combat aussi pour moi. Qu'est-ce qu'il est facile de se faire des nœuds avec cette histoire de prier sans cesse ? Sans cesse ! Continuellement. Et il y a toutes sortes de réactions qu'on peut entendre. Hein. La personne qui a dit, non mais attends, à moins de me faire moine, c'est impossible. Hein. On m'en demande trop. Ou alors peut-être votre réaction est tout simplement de dire, mais j'ai autre chose à faire. Hein. Comment répondre à cette exhortation de la parole de Dieu? Et pourtant, il est affirmé ici que la volonté de Dieu à notre égard est que nous prions continuellement. Est-ce que le Seigneur exigerait l'impossible? Alors, je pense que pour bien vivre cette exhortation, il faut déjà comprendre qu'il n'est pas question ici d'intercéder sans cesse, c'est-à-dire de formuler sans cesse, continuellement, des requêtes, ou même des louanges. Ce qui est en jeu, c'est plutôt la continuité de notre communion avec le Seigneur, de notre conscience du Seigneur dans notre vie. Parce que notre Dieu ne peut pas se satisfaire d'une communion occasionnelle avec nous. Mais qu'est-ce que c'est facile de tomber dans une routine, de dire, bon Seigneur, d'accord, bon, ça, je te donne 5 minutes le matin, et puis voilà, on verra si ce soir j'ai un petit moment pour toi. Et puis le dimanche, bien sûr, j'irai au culte, et voilà, je te donnerai 1h30 ou 2 heures, je sais pas. Hein, mais le Seigneur ne peut pas se satisfaire d'une communion comme ça, de temps en temps, avec nous. Sa volonté est que nous progressions dans la prise de conscience de sa présence permanente. La présence de Dieu est permanente. Comme son soutien aussi, permanent, sans interruption. Le Seigneur, lui, et c'est une vérité extraordinaire, le Seigneur n'a pas de haut et de bas. Alors nous en avons tous, mais le Seigneur, non. Hein, sa grâce est constante et rien ne peut l'entamer. Alors de là découle effectivement le fait que nous avons une ligne directe toujours ouverte avec le ciel. Et c'est d'ailleurs un mystère, je dirais même un mystère insondable, hein, mais glorieux, que le Seigneur prête attention à chacun de ses enfants, partout et toujours. Alors, ne me demandez pas comment il fait. Mais il s'occupe de chacun comme s'il n'y avait personne d'autre. Alors, c'est énorme. On dit aujourd'hui, c'est bluffant. Ça nous dépasse. Mais il faut aussi l'accepter et s'en réjouir. Le Seigneur est toujours là pour nous. Mais en retour, il aimerait nous voir dépasser notre tendance à le traiter comme une roue de secours. La roue de secours, on l'utilise que quand on a une crevaison, quand il arrive un pépin. Et c'est tellement facile. Là, on se met à prier quand on a un pépin. Mais le Seigneur veut aussi qu'on soit constamment dans sa présence et en communion avec lui. Qu'il ne soit pas seulement une sorte de service d'urgence, et que nous apprenions à pratiquer sa présence. Parce que, encore une fois, la présence de Dieu ne connaît jamais de problème de couverture. Son réseau est toujours au maximum, partout, dans le monde entier, à tout moment, 24/7, comme on dit. La sanctification passe donc par une conscience toujours plus aiguisée de cette présence qui est réelle, qui est réelle. Et que le virtuel ne nous empêche pas de connaître ce qui est réel, la présence réelle de Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'essayer de nous en convaincre en nous mettant devant la glace chaque matin pour dire « Mais le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là !» Non, il s'agit surtout d'y croire parce que le Seigneur le dit. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et le Seigneur tient parole. Donc, il s'agit même pas d'essayer de sentir cette présence. Il y a des moments où peut-être cette présence est plus sensible qu'à d'autres, mais d'abord d'y croire et de marcher par la foi. Parce que ce qui change notre comportement, finalement, ce qui fait notre différence, c'est pas seulement de savoir ici, au niveau du cerveau, que le Seigneur voit tout, qu'il entend tout. C'est de le vivre par la foi. Donc, que le Seigneur nous aide à nous rappeler que oui, il voit tout, il entend tout. Et quand on est conscient de cela, ça change déjà beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses qu'on ne dira pas, parce qu'on sait que le Seigneur entend. Il y a des choses qu'on ne fera pas, parce qu'on sait que le Seigneur voit. Et c'est donc cette présence permanente du Seigneur, une aide pour marcher dans la sainteté. Et plus je vis conscient de la présence permanente du Seigneur avec moi, plus j'apprends à l'associer consciemment à ce qui m'arrive. Parfois, on se débat avec des problèmes longtemps avant de penser « Mais pourquoi j'en ai pas parlé au Seigneur ? Qu'est-ce que je fais là ?» Mais voilà, le Seigneur nous invite à être toujours en communication avec lui. Nous pouvons donc lui adresser à tout moment. Alors, ce qu'on appelait autrefois, je montre mon âge, mais on appelait ça des prières télégraphiques. Mais bon, il n'y a plus de télégraphe, donc on va dire des messages instantanés. On peut adresser à tout moment ces messages instantanés au Seigneur, et il entend et il répond. Juste aussi, pour finir avec ce point-là, l'un des sens possibles de ce mot qu'on traduit par « sans cesse », donc « prier sans cesse » ou « continuellement », l'un des sens possibles de ce mot, c'est « sans rater aucune occasion ». Sans rater aucune occasion. Et effectivement, je me dis, combien d'occasions manquées dans une journée pour simplement dire, ben, Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, ou Seigneur, voilà, je te remercie pour ce qui vient de m'arriver. Donc, la volonté du Seigneur est que nous ne rations aucune occasion de l'associer à ce que nous vivons. Mais la vie sanctifiée ne doit pas être ingrate non plus. Alors on l'a dit, si Dieu est avec nous, il y a en toutes circonstances des raisons de nous réjouir. Donc, ça c'est le premier point, mais aussi de le remercier. Nous recevons tant de grâces de sa main que nous ne saurions les énumérer toutes. Mais il aime nous entendre compter ses bienfaits. On chante, hein, compte les bienfaits de Dieu. Mais il faut non seulement le chanter, mais le faire et exprimer donc cette reconnaissance dont il est digne parce qu'il nous donne tellement de choses. Alors le Seigneur nous invite à être constamment reconnaissants, pas parce que ça lui fait du bien, mais parce que ça nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien réjouit le cœur de Dieu. Et ça nous fait du bien de nous redire que nous ne sommes pas livrés aux forces aveugles de la chance, de la malchance, hein, ou du hasard et de la nécessité, si vous voulez. Nous servons un Dieu vivant et vrai, le Dieu vivant et vrai, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et donc la volonté de Dieu à notre égard est que nous discernions sa main dans toutes les situations. Et là, j'ai un exemple qui vient de l'histoire de l'Église, mais c'est un exemple qui que je trouve intéressant dans ce thème-là. C'est une expérience vécue par un prédicateur itinérant à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Cet homme s'appelait Matthew Henry. Un grand commentateur de la Bible d'ailleurs, mais il voyageait aussi pour prêcher l'Évangile. Et un jour, il s'est fait attaquer par des brigands de grand chemin qui l'ont dépouillé complètement. Et à la suite de cette expérience, il a dit « Je remercie le Seigneur ». Alors vous imaginez, on a dû le regarder avec de gros yeux pour dire « Non mais attends, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais il a dit « Je suis reconnaissant ». Parce que dans tous mes voyages, c'est la toute première fois que ça m'arrive. Ah oui, je n'y aurais peut-être pas pensé. Quand, hein. Mais merci Seigneur, c'est la première fois que ça m'arrive. Et puis il a dit, je remercie aussi le Seigneur, parce que si on m'a pris ma bourse, c'est vrai, on m'a laissé la vie. Et à l'époque, il semble que c'était courant que... on puisse être même tué pour qu'on puisse prendre son argent. Deuxième chose, donc, on m'a pris ma bourse, mais on m'a laissé la vie. Et puis, il a dit aussi, je suis reconnaissant, parce que on m'a pris tout ce que j'avais sur moi, mais finalement, c'était pas tant que ça. Et finalement, quatrième sujet de reconnaissance qu'il a trouvé, il a dit, je remercie le Seigneur, parce que c'est moi qui ai été volé, et non pas moi qui ai volé. Alors ça nous ouvre des horizons, hein, pour être reconnaissants. Hein. Je trouve que effectivement c'est un exemple qui me parle beaucoup. Le Seigneur veut que nous soyons intentionnellement reconnaissants. Et je pense que, comme moi, vous pouvez dire, oui, j'ai du progrès à faire dans ce domaine, hein, que le Seigneur nous y aide. Et puis, donc, après ces trois exhortations, on a ce que je vais appeler ce matin le cadre donné à la sanctification. À un moment donné, dans l'évangile de Jean, il y a un moment où Jésus prie son Père pour ses disciples. Et il dit, Père, consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Hein, Jean 17, 17. Et à notre époque si individualiste, je pense qu'il n'est jamais inutile de rappeler le rôle incontournable que Dieu réserve à l'Église dans le domaine de la sanctification par la vérité. Nous avons besoin de notre Église dans ce domaine. Et dans le texte, donc Paul met en apposition deux choses. Il parle de ne pas éteindre l'action de l'Esprit, et il l'explique par cet exemple, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas la prédication prophétique apportée dans la communauté des enfants de Dieu. Le Seigneur n'a pas prévu de nous faire grandir dans la connaissance de sa volonté et la pratique de sa volonté, indépendamment du corps de chrétiens auquel nous sommes rattachés et des ministères qui s'y exercent, bien sûr. Alors juste une toute petite parenthèse sur les prophètes, parce que ça pose parfois question. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul explique bien les choses, il me semble. Il parle d'abord des apôtres, ces prophètes. Donc les premiers prophètes dans le Nouveau Testament étaient aussi apôtres. On peut penser à Jean, à Pierre, à Matthieu, à Paul lui-même bien sûr, qui faisait partie des apôtres prophètes, qui nous ont laissé des livres du Nouveau Testament. Mais dans Éphésiens 4, 11, quand Paul parle des différents ministères que le Seigneur donne à son Église, il parle de prophètes qui n'étaient pas apôtres, mais qui faisaient aussi partie des fondateurs, qui ont aidé les apôtres à poser les fondements de l'Église. Et là, bon, on peut penser à Marc, à Luc, à Jacques, puis à d'autres qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Mais après cette génération-là de prophètes, il y en a eu d'autres. Seulement, ceux qui ont suivi n'étaient pas inspirés comme les fondateurs. Il y a un changement de registre là pour les dons. Il n'y a plus de parole infaillible qui devient parole de Dieu. Mais ces prophètes qui ont suivi étaient quand même équipés pour appliquer la parole révélée, ce qui a été inspiré au fondateur, permettre aux chrétiens de comprendre et de vivre cette parole. Seulement, à partir de cette génération-là, tous les prophètes pouvaient et peuvent se tromper. Il n'y a plus de parole infaillible qui puisse être donnée en dehors de ce qui est consigné dans les pages des Écritures. Donc je ferme la parenthèse pour revenir à ce cadre que Dieu donne à notre sanctification dans l'Église. Et une parole de Jean dans sa deuxième lettre qui nous incite fortement à vérifier nos sources. Il dit « Beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde. » Alors à son époque, c'était des gens qui voyageaient de ville en ville et qui rentraient dans les églises pour semer la pagaille, enfin pour introduire des idées fausses. Alors aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont plus besoin de voyager parce que par Internet, ils rentrent dans tous les foyers. Il y a tout ce qu'on peut voir sur Internet. Il y a aussi, bien sûr, des tas de choses qui circulent, des livres, des vidéos. Vous connaissez comme moi les moyens, les médias que nous avons aujourd'hui. Nous sommes abreuvés de messages, et même de messages qui se prétendent chrétiens. Et nous avons donc plus que jamais besoin de prendre garde, comme l'apôtre Jean nous y exhorte. Et donc, aux Thessaloniciens, dans le texte que je vous ai lu, Paul rappelle que même quand l'Église a confiance en ses enseignants, on doit tout examiner. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole du prédicateur n'a d'autorité que dans la mesure où elle applique honnêtement les Écritures à notre vie réelle. Nous avons un devoir de discernement. Et quand je dis nous, je parle de tous les chrétiens, tous les membres de toutes les églises, nous avons un devoir de discernement. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est cohérent avec la parole tout entière, ce qui est conforme à ce que les apôtres nous ont révélé, et puis oublier le reste. Hein? Et c'est ce qu'il faut faire devant chaque message qu'on écoute, ou qu'on lit, hein, ou qu'on regarde. Et quand ce qui est bien aux yeux de Dieu nourrit notre pensée, nos yeux s'ouvrent en même temps pour débusquer ce qu'il considère comme mal. Parce que parfois, il y a des choses que Dieu considère comme mal et que nous ne sommes pas trop sûrs si c'est bien ou si c'est mal. Hein, mais par la parole, nos yeux s'ouvrent pour comprendre ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour nous et qui se cache parfois sous des apparences anodines et même spirituelles. C'est pas parce qu'on se réclame de Dieu ou de sa parole que tout ce qu'on dit est juste. Donc, prenons à cœur notre devoir de discernement. Pour prendre une image, j'aime bien dire que c'est dans la communion de l'Église locale que fonctionne notre détecteur de faux billets. Donc, alors, je devrais dire peut-être de fausses doctrines, hein, mais vous avez compris, c'est une image. Parce que seuls dans notre coin, nous pouvons tous nous tromper. J'oserais même dire qu'il nous est arrivé à chacun de nous tromper un jour ou l'autre. Mais par la parole prêchée dans nos cultes, par la parole partagée dans les autres réunions de l'Église, le Seigneur est en train de sanctifier encore et encore notre pensée. Il est en train de sanctifier notre doctrine, ce que nous croyons. Parce que ce que nous vivons, notre comportement, ça découle de ce que nous croyons. Et si nous croyons de façon juste, notre comportement sera juste. Mais si nous nous soustrayons délibérément à ces moyens de grâce que Dieu nous donne, nous nous mettons en danger. Et nous entravons cette œuvre de l'Esprit en nous, dont nous avons déjà parlé ce matin. Et donc j'en arrive à ce qui me semble être quand même le plus important dans tout ce passage. C'est la question du Dieu qui sanctifie. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. La sanctification commence par l'intérieur, par la transformation de notre cœur, de notre imagination, de nos valeurs. Et pour cela, Dieu lui-même met en œuvre un processus, ce que nous appelons la sanctification, un processus qui a commencé le jour où nous avons reconnu en Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur, mais un processus qui continue tout au long de la vie et qui progresse vers son aboutissement, que Paul nous rappelle ici, cet aboutissement n'interviendra que lors du retour de la, enfin, ce qu'il appelle ici l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En clair, il nous donne son Esprit Saint. L'Esprit est à l'œuvre pour nous entraîner dans le bon sens, dans le sens de ce que Dieu veut. Pour prendre une autre image, vous savez, personne ne peut se décoller du sol en tirant sur ses lacets. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais vous attendrez la fin du culte pour faire l'essai. Personne ne peut se décoller du sol en tirant sur ses propres lacets. Et dans le domaine spirituel, c'est vrai aussi. C'est Dieu qui nous élève. Mais il veut le faire. Et dans le mystère de la liberté humaine, si j'ai bien compris ce que Paul dit ici, il nous est possible de freiner cette poussée de l'Esprit. Quand il dit « n'éteignez pas l'action de l'Esprit », ça montre bien que nous avons une responsabilité pour recevoir, pour accueillir cette action, cette œuvre de l'Esprit en nous. Nous pouvons freiner cette poussée de l'Esprit. Mais nous pouvons aussi l'accompagner. Nous pouvons aussi nous mettre au diapason avec l'Esprit qui nous entraîne dans le bon sens. Et Paul dit que Dieu nous appelle ici. Dieu nous appelle. Celui qui nous appelle est fidèle. Dieu nous appelle à la consécration de tout notre être, à suivre un chemin, un long chemin. Et c'est lui qui fournit la grâce sans laquelle cet appel resterait lettre morte. Mais quand Paul parle de cet appel, il met le verbe au présent, celui qui vous appelle. Ça ne nous frappe peut-être pas à la première lecture, mais si on s'arrête dessus, il aurait très bien pu écrire, celui qui vous a appelé est fidèle. Parce qu'effectivement, tout commence par un premier appel qui nous permet de reconnaître dans l'Évangile la source de la vie nouvelle. Mais le verbe est au présent parce que Dieu appelle toujours. Dieu appelle encore ce matin, nous appelle. Et il nous appelle à avancer avec lui. Il veut poursuivre ce qu'il a commencé, là il n'y a pas de doute. Et nous, sommes-nous prêts à faire l'effort de profiter simplement des moyens de grâce qu'il nous offre? Parce que la volonté de Dieu, c'est encore et toujours notre sanctification, que nous devenions de plus en plus saints. Donc, on arrive à la conclusion de cette lettre et de notre méditation ce matin. Paul a prié pour les Thessaloniciens, mais il reconnaît aussitôt après qu'il a besoin de leur prière. Je trouve ça toujours très beau que le grand apôtre pouvait dire, mes frères et sœurs, priez pour moi. Nous avons tous besoin de cette prière les uns pour les autres. Que ne ferait pas le Seigneur si nous prenions à cœur de prier plus sérieusement les uns pour les autres. Prions donc, sans rater aucune occasion, pour que la volonté de Dieu à notre égard se réalise par l'approfondissement de l'œuvre de l'Esprit dans tous nos cœurs, pour nous rendre différents. Donc je vous rappelle, le Seigneur veut faire grandir notre joie, il veut faire grandir notre communion avec lui. Il veut faire grandir notre reconnaissance. Il veut nous sanctifier par sa vérité à travers les ministères qui s'exercent dans son Église. Donc s'il nous trouve disponibles, s'il nous trouve volontaires, s'il nous trouve surtout obéissants, il y a une grande promesse ici. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Donc, c'est une promesse, faut s'y accrocher et compter dessus aujourd'hui et tous les jours. Et on peut terminer donc avec la même bénédiction que la bénédiction à la fin de l'épître. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, combien nous avons besoin de cette grâce. Et merci par tous les moyens que tu as mis en place pour que cette grâce arrive jusqu'à nous et nourrisse nos cœurs et notre désir de mieux te connaître, de mieux te suivre, de mieux t'aimer. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci de nous aider à garder ce matin quelque chose de cette parole dans nos cœurs pour méditer cette semaine, pour nous laisser entraîner par ton esprit dans cette grande aventure de la foi à laquelle tu nous appelles. Merci Seigneur parce que tu es là, que rien ne peut entraver ta présence auprès de nous, rien ne peut t'empêcher de nous secourir, de nous soutenir et de nous encourager. Merci encore pour cette présence active, cette présence qui nous bénit, cette présence qui nous permet de grandir aussi devant toi, pour que le monde voit que tu nous as changés, que tu es ce Dieu vivant et vrai pour nous, mais que tu veux aussi être pour chacun, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te bénissons, Seigneur, encore pour ces moments que nous avons passés ensemble sous ton regard, et nous te demandons de nous accompagner maintenant par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen.